BW. Droits et libertés.
Il y a 100 ans exactement, l'Allemagne sort de la Première Guerre mondiale qu'elle a perdue. Elle est exsangue, déchirée en luttes internes par des violences politiques, des mutineries, une tentative de l'extrême gauche aussi d'imposer la révolution socialiste. Et c'est dans ce contexte tendu qu'une assemblée constituante se réunit dans la ville de Weimar. La nouvelle constitution est proclamée au mois d'août 1919. Nous parlons de tout cela cette semaine et du nazisme qui a suivi cette tentative démocratique avec un professeur en droit berlinois, Christian Tomuschat. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Christian Tomuschat, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes président de la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Nous aurons sans doute l'occasion de reparler de ces activités avec vous, mais vous êtes aussi professeur émérite de droit de l'Université de Humboldt. Et c'est à ce titre que nous vous recevons cette semaine pour parler de la Constitution de Weimar qui a été promulguée le 11 août 1919. Alors d'abord, l'empereur Guillaume II a abdiqué le 9 novembre 1918. Donc il y avait une sorte de vacuité, il fallait trouver un nouveau régime. L'Allemagne devait trouver un moyen d'être gouvernée.
Il y avait vraiment un grave écart entre la droite et la gauche. Et la gauche voulait conquérir le pouvoir, mais finalement, les forces de continuité ont prévalu. On a vraiment pu constituer cette constituante de Weimar pour élaborer cette constitution qui était nécessaire après vraiment la défaite de la monarchie.
Cette constitution de Weimar, dans son premier article, dit que le Reich est une république parlementaire. Ça veut dire que le Reich, ça n'est pas forcément un empire avec un empereur.
Tout le monde savait qu'on avait besoin d'une vraie démocratie. Et durant la monarchie, on avait eu une assemblée nationale, le Reichstag, qui siégeait à Berlin. Mais le gouvernement n'avait pas besoin de la confiance de cette assemblée. Le gouvernement était constitué par le Kaiser lui-même, par l'empereur. Et le Parlement n'avait pas un moyen de prononcer un vote de méfiance à l'égard du gouvernement. C'était la grande faiblesse. C'était encore le système monarchique classique, au fond. Et le Reichstag avait beaucoup de pouvoir. C'était le pouvoir législatif, évidemment. Mais tout le pouvoir exécutif résidait dans la personne du Kaiser et le gouvernement dépendait de lui.
Donc la constitution de Weimar a introduit un meilleur partage des pouvoirs et un meilleur contrôle de l'exécutif par le législatif.
Absolument. Désormais, le gouvernement dépendait de la confiance de l'Assemblée parlementaire. Et le malheur, c'était qu'on n'arrivait plus, après quelques années, à former une grande majorité solide pour cette démocratie. Il y avait des forces extrémistes à droite et à gauche, les communistes, et après quelques années, les national-socialistes, les nazis. Tous les deux mouvements ne partageaient plus l'idéal démocratique.
Comment ça se fait que cette constitution et la République qu'elle a introduite n'ont pas réussi à susciter l'adhésion de des Allemands dans leur majorité? C'est le traité de Versailles qui en a rajouté une couche dans la souffrance et l'exacerbation des frustrations? Ou pourquoi il n'y a pas eu de stabilité?
Pour la grande majorité des Allemands, c'était le traité de Versailles, c'était traumatique. Et on croyait qu'on avait été traité de façon malhonnête, injuste, que ce traité de Versailles n'avait vraiment pas de légitimité. Et finalement, à la fin des années 20, il y avait cette grande crise économique et sur les routes de l'Allemagne, il y avait 6 millions de gens sans travail, n'est-ce pas? Une grande majorité des gens. Il y avait de la vraie pauvreté. Les gens n'avaient pas d'assurance sociale. Il y avait des cuisines dans les rues pour les pauvres. C'était vraiment une situation de 29 à 33 qui était exécrable, avec tous ces chômeurs, tous ces gens pauvres qui ne voyaient pas de futur, et Adolf Hitler leur promettait évidemment un avenir brillant. Et les gens croyaient à ce moment que Hitler vraiment, était vraiment la personne qui pouvait relancer l'Allemagne, lui encore gagner une place dans la communauté des nations européennes.
Donc on peut peut-être rappeler que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par les voies légales.
Absolument. En 1933, c'est une majorité qu'il a eue finalement au Parlement, à l'Assemblée parlementaire, qui n'était pas très grande. Il a pu gagner cette majorité parce qu'il s'associait avec les conservateurs. Et les national-socialistes ont alors saisi le pouvoir, tout l'appareil exécutif, la police. Dans un tournement, ils ont changé toute la structure administrative de l'Allemagne. Et la police, les tribunaux, tout ça, ça s'est fait dans 2 mois. Tout le système. On se demande encore comment il a pu le faire. Ce sont des événements regrettables qui se sont produits, mais c'est le passé.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer, vous disiez que les historiens peut-être ou les juristes ne sont pas tous d'accord sur la question, mais cet effondrement si rapide de cette structure qu'avait posée la constitution de Weimar, c'est qu'elle était inadaptée à l'époque, qu'elle était trop faible. Comment est-ce qu'une constitution peut voler en éclats aussi vite?
Ah oui, je crois que c'est une bonne constitution. On avait tout de même, pour la première fois, des droits fondamentaux dans la constitution.
Notamment le droit de vote pour les femmes.
Le droit de vote pour les femmes, mais il y avait ce malaise dans la population, n'est-ce pas? Il y a eu, je crois, un front réactionnaire pour qui ce traité de Versailles, c'était toujours au centre de leurs pensées. Hitler promettait tout cela, et c'est pour ça au Parlement, il n'y avait plus de majorité. C'était ça qui était le grand problème. On aurait pu peut-être introduire un autre système électoral. On n'avait pas de clause pour les petits partis, une clause comme nous l'avons aujourd'hui en Allemagne. Et pour un parti, pour pouvoir entrer au Parlement, il faut un pourcentage de 5% des voix. Peut-être,
oui.
Au début, on aurait pu arrêter Hitler avec une telle clause, mais après, évidemment, il était devenu beaucoup trop fort. Mais il n'a jamais obtenu, durant le temps libre vraiment, une majorité de plus de 50%.
100 ans plus tard, 100 ans après la promulgation de la Constitution de Weimar, on y est, c'est maintenant, c'est la République fédérale en 2019. Que reste-t-il dans la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui de cette Constitution de Weimar, malgré les soubresauts, les aléas et la partition de l'Allemagne, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale? Maintenant, qu'est-ce qui reste?
Ce qui reste, c'est l'héritage des droits de l'homme, n'est-ce pas, des droits fondamentaux qui étaient inscrits déjà dans la Constitution de Weimar. Et à Weimar, on avait déjà commencé à constituer une cour constitutionnelle qui n'avait pas pleinement fonctionné. Maintenant, nous avons une cour constitutionnelle qui fonctionne bien, mais c'était déjà, disons, un petit début durant la Constitution de Weimar, ce qui reste. Mais ce qui ne reste pas, c'est le grand pouvoir exécutif. Le président, durant l'époque de Weimar, était très très puissant. Il avait surtout le droit de proclamer des ordonnances exceptionnelles. Mais cela n'existe plus.
Et peut-être aussi le fédéralisme, les représentations des Länder, qui fonctionnent un petit peu pareil encore aujourd'hui, les prérogatives des régions.
Oui, c'est une grande tradition allemande d'avoir des Länder, parce que l'Allemagne s'est formée au 19e siècle. Au 19e, il y avait encore les États comme la Bavière, Bade-Württemberg, tous ces États se sont réunis seulement durant la deuxième moitié du 19e siècle. Durant la guerre contre la France de 1860, 70 et 71, que là, l'Allemagne, l'Empire allemand s'est formé. Mais les nazis ont ensuite, en 1933, ils ont aboli, supprimé tous les Länder. On avait, sous le régime nazi, un régime unitaire, plus de Länder avec une autonomie seulement des provinces qui étaient dirigées par Berlin, par le pouvoir central.
Christian Tomochat, un grand merci.
Merci madame.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Christian Tomochat pour cet entretien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Droits et Libertés. Même endroit, même heure.
Kurz vor dem Fall. Und wenn du denkst, fuck it all. Und wenn du nicht weißt, wie soll es weitergehen? Kapitulation. Wenn du denkst, alles ist zum Schwein, und so wie du jetzt bist, willst du überhaupt nicht sein. Wenn du dir sicher bist, niemand kann dich je verstehen. Kapitulation, oh, Kapitulation, oh, Kapitulation. Oh, oh, oh. Und wenn du traurig bist und einsam und allein, wenn die Welt in Schlaf versunken ist, du